France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Histoire de France, comment écrire un récit commun? D'ailleurs, qu'est-ce que la France? Qu'est-ce que la nation? Et quelles en sont les trois fleurs? En quoi une histoire de France peut-elle être nouvelle? Ou alors, pour le dire autrement, pourquoi écrire une nouvelle histoire de France, là, maintenant, aujourd'hui? Au-delà d'actualiser les connaissances à l'aune des avancées de la recherche historique, en quoi répond-elle à un besoin? Le besoin de connaître notre histoire. Allô, la France?
Allô? 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 Allô aux enfants de la patrie? Bonjour!
Trois couleurs, un drapeau, un empire.
Nous n'avons qu'une seule devise et une seule volonté qui s'appelle... Liberté, égalité, fraternité.
Si vous m'enlevez le drapeau tricolore, sachez-le bien... Vous m'enlevez la moitié de la force extérieure de la France.
Éric Onceau, bonjour.
Bonjour Xavier, c'est très impressionnant de parler après la Marseillaise, Rouget de Lille, Berlioz, Lamartine et Pierre Desproges.
Oui voilà, Pierre Desproges, vous l'avez reconnu, bravo. Jacqueline Lalouette, bonjour.
Bonjour Xavier.
Éric Onceau, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine. Vous avez dirigé cette monumentale, je le dis, nouvelle histoire de France, conséquente hein, en nombre de pages et en nombre d'auteurs, d'autrices. Éric, je le dis tout de suite, par honnêteté envers les auditeurs et les auditrices, j'ai contribué à cet ouvrage hein, pour des textes consacrés au faste et à la mode. Donc il faut tout de suite replacer cette histoire de France dans ce grand questionnement que je posais en ouverture de cette émission. Mais pourquoi aujourd'hui écrire une nouvelle histoire de France? À quel besoin répond-elle?
Elle répond, je dirais, à trois besoins. Alors, le premier besoin, c'était la volonté de faire ce qui, à mes yeux, n'a jamais été fait. Proposer, vous avez dit que c'est un très fort volume, hein, 1100 pages, eh bien, une histoire qui soit à la fois encyclopédique et ludique pour le grand public. Alors, la deuxième raison, c'était de mettre à la portée du public les meilleurs historiens. Vous en êtes, Xavier. Nous avons Jacqueline et il y a 100 collègues hein, qui ont participé à ce livre. On aura l'occasion de citer quelques noms. Je ferai tout à l'heure sans doute un peu de name-dropping, vous m'excuserez. Et puis, une troisième raison, c'est l'historiographie. L'historiographie va très très vite et il s'agissait sur des thématiques nouvelles. Je pense à l'environnement, je pense à l'histoire des femmes et du genre, et bien de renouveler les choses. La Seconde Guerre mondiale, on a un trio fantastique sur la Seconde Guerre mondiale dans ce livre. On a Olivier Vievorka, on a pour la Résistance Jean-François Muratiol et on a, est-il besoin de le présenter, il fait l'actualité d'ailleurs, Laurent Joly pour les collaborations.
Voilà, Laurent Joly qui vient de diriger lui aussi une monumentale histoire de Vichy, l'histoire d'une dictature. Jacqueline Lalouette, écrire une histoire de France est un exercice très compliqué parce que historienne, historien, chacun est spécialiste d'un domaine et travailler de manière transversale sur d'autres périodes, c'est un défi aussi. Alors, c'est toujours intéressant, les défis, mais bon, quand on a les armes de la formation par l'histoire, on peut manier d'autres périodes. Mais ça reste un défi, hein. C'est difficile de sortir de sa propre période de confort. Vous avez travaillé sur quoi, vous, dans la nouvelle histoire de France ?
J'ai fait Liberté, Égalité, Fraternité et des focus sur le drapeau et la Marseillaise.
Ah ben, ça tombe bien, parce que vous publiez chez Passé Composé, Trois fleurs de la nation, le drapeau, l'hymne, la devise. Là aussi, à un moment, se dire je vais publier un ouvrage consacré au drapeau, à l'hymne et à la devise, ça répond à un besoin. Vous avez senti cette nécessité-là aujourd'hui ?
Ben, j'ai ressenti le besoin en travaillant sur des livres antérieurs sur l'identité républicaine de la France, sur les jours fériés, etc. Je voyais partout surgir le drapeau, j'entendais la Marseillaise. Et puis l'importance des drapeaux est mise en avant actuellement par tout ce qui se joue autour des drapeaux dans les manifestations ou sur la façade des mairies. On voit que les drapeaux, c'est pas seulement des bouts de tissu, que ce sont effectivement des bouts de tissu, mais porteurs de beaucoup de choses. Alors, je précise au passage, parce qu'il y a une idée reçue à ce sujet, la présence du drapeau sur la façade des mairies n'est absolument pas obligatoire. C'est une tradition républicaine. Le drapeau, comme l'inscription de la devise, ne sont obligatoires que sur la façade des écoles et seulement depuis 2013.
C'est très récent. Hein.
Oui, c'est très récent.
Jacqueline Lalouette, vous êtes professeure émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Lille et membre senior honoraire de l'Institut universitaire de France. Vos travaux sont toujours en écho à l'actualité. Il n'y a qu'à citer les statues de la discorde. C'était vraiment cette période, on en parle moins maintenant, mais ça va revenir parce que ça revient sans cesse, déboulonner les statues ou pas. Vous avez cité l'identité républicaine de la France. C'est quelque chose que l'on perçoit, Éric Anceau, je pense que c'est le quotidien d'une historienne ou d'un historien de constater dans l'actualité des échos à l'histoire. C'est pour ça que connaître notre histoire, c'est plutôt pas mal.
C'est inévitable et nous sommes tous les deux contemporanéistes, donc on est un petit peu plus rompus à l'exercice que nos camarades d'histoire ancienne, médiévale ou moderne, qui sont dans le livre, mais qui se sont prêtés à l'exercice. Mais attention, hein, on ne fait pas une histoire partisane uniquement d'actualité, c'est un vrai livre d'histoire que nous proposons. Simplement, il y a un écho, je pense, dans chacun des 100 chapitres dans notre actualité.
D'ailleurs, Éric Anceau, au moment de se lancer dans un tel programme, écrire une nouvelle histoire de France, je vous imagine avec une feuille blanche en train de lister tout ce dont il faut parler. Alors très vite, on passe d'une feuille blanche à une ramette de papier.
C'est exactement ça, Xavier. C'est-à-dire, j'ai listé alors un peu plus de 100 thèmes qui donnent lieu aux 100 chapitres. Et puis avec l'éditeur, on s'est dit, finalement, 100 chapitres, ça serait bien. Donc on s'est arrêté à 100 et le directeur a été un peu frustré puisque j'avais prévu un chapitre fiscalité, j'avais publié récemment une histoire des impôts et un livre sur la laïcité et ces deux chapitres ont rétrogradé au rang d'éclairage. Nous avons dans le livre 340 éclairages. Alors l'éclairage laïcité est le plus important de tous les éclairages du livre. Le thème de la laïcité, je pense que Jacqueline ne me démentira pas, méritait un très gros éclairage.
Jacqueline Lalouette, c'est vrai que vous avez choisi pour les trois fleurs de la nation le drapeau, l'hymne, la devise, mais à travers cela, nous avons tant d'autres fleurs que nous pourrions rajouter.
Oui, bien sûr. Mais si j'ai mis ces trois fleurs-là, c'est parce que ce sont les trois symboles constitutionnalisés depuis 1946, puis depuis 1958. Les autres symboles qui sont la Marianne, qui sont la fête nationale du 14 juillet, qui sont le faisceau des licteurs, enfin, on peut en trouver encore d'autres, d'une part, n'ont pas cette place dans la Constitution, et d'autre part, ne jouent pas le même rôle dans la vie politique. Marianne est présente dans beaucoup de mairies, dans beaucoup d'écoles aussi, mais on ne la voit pas descendre dans la rue quand il y a une manifestation, comme on voit les drapeaux s'agiter au vent de tous les troubles politiques. On entend la Marseillaise, on n'entend pas crier la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Vous voyez, il y a comme ça des... Voilà.
Et puis, une histoire qui...
On entend, pardon, je me suis...
Non, mais c'est vrai qu'on entend chanter la Marseillaise, la devise, elle n'est pas criée dans la rue, on le sait bien, mais elle est présente, vous l'avez dit, sur les bâtiments, voilà. C'est quelque chose que...
Et on peut la voir inscrite sur des banderoles dans les manifestations, et j'ai même vu, lors des manifestations contre la vaccination à propos de la Covid, j'ai vu en 2020 ou 2021, près de la Bibliothèque nationale de France, une femme déguisée en statue de la liberté qui brandissait un flambeau et une pancarte liberté. C'était assez amusant.
Voilà, nous avons nos trois fleurs de la nation, le drapeau, l'hymne, la devise. Et puis, puisqu'il est question d'histoire, il est aussi question de transmission, il est question d'école. On sait bien que l'histoire en tant que discipline scientifique, c'est bien souvent par l'école que nous la rencontrons. Et dans la cour de récréation, nous chantons.
Où l'avez-vous perdu, Zim, Zim, Carillon? Où Où l'avez-vous perdu, trois fleurs de la nation? Je l'ai perdu dans le bois, zim, zim, carillon. Je l'ai perdu dans le bois, trois fleurs de la nation. Quelle robe avait-elle, zim, zim, carillon? Quelle robe avait-elle, trois fleurs de la nation? Elle avait une robe rouge, zim, zim, carillon. Elle avait une robe rouge, trois fleurs de la nation. Comment s'appelait-elle, zim, zim, carillon? Comment s'appelait-elle, trois fleurs de la nation? Elle s'appelait Brigitte, zim, zim, carillon. Elle s'appelait Brigitte, trois fleurs de la nation.
Nous étions en 1959 pour cet enregistrement de Zim Zim Carillon. Jacqueline Lalouette, Trois fleurs de la nation, le titre de votre ouvrage, c'est passé composé. Un écho à cette chanson?
Absolument. Primitivement, j'avais intitulé le livre Les symboles de la France, ou les symboles constitutionnels de la France, je crois. Et l'éditeur, bon, Nicolas Grappaillin, que je salue ici, m'a dit « Jacqueline, votre titre n'est pas très affriolant », enfin, ou quelque chose comme ça. Donc, je cherchais un autre titre, et puis un beau matin, les trois fleurs de la nation que j'ai beaucoup chantées dans des cours de récréation quand j'étais petite fille, eh bien, ces trois fleurs de la nation me sont revenues à la mémoire et je me suis dit, eh bien voilà, le drapeau, l'hymne, la devise, c'est les trois fleurs de la nation.
Éric Anceau, vous êtes l'auteur d'une histoire de la nation française, du mythe des origines à nos jours, c'est publié chez Talendier. Cette réflexion sur la nation, on la retrouve aussi. Moi, j'ai envie de profiter de votre présence pour poser des questions simples mais tellement complexes par leurs réponses. Qu'est-ce que la nation ?
Ah, alors, oh là là, si vous m'entraînez sur ce terrain, juste avant ce livre-là, j'ai publié une histoire de la nation française qui fait quand même 350 pages, donc ça va être très dur de synthétiser tout ça. Je dirais que la nation, c'est une représentation qu'on se fait, qui est très très politique et qui permet aux élites de gouverner le peuple. Alors, dans notre livre, je crois que vous recevez, cher Xavier, demain, pour prolonger cette semaine historiographique, Gérard Noiriel. Il nous donne Peuple et il vient de sortir une grande histoire du peuple français. Et juste à la suite, je donne le chapitre Nation. Alors, voilà, un peu de teasing. Hein. Je vais renvoyer vos auditeurs. Ils feront la comparaison des deux dans le livre.
Voilà, Gérard Noiriel qui contribue lui aussi à cette nouvelle histoire de France que vous dirigez, Éric Anceau. Alors, la question suivante, c'est aussi complexe, c'est qu'est-ce que la France? Parce que écrire une nouvelle histoire de France avec la volonté de l'écrire sur le temps long, là ça devient compliqué. Si c'est une histoire de France qui est calquée sur le temps de l'histoire nationale, on peut trouver des bornes historiques qu'on identifie. Or, on a la Révolution française, on a d'autres moments. France, ça devient beaucoup plus difficile à définir.
Exactement. Et c'est pourquoi on a pris nos lecteurs par la main dans ce livre. On a voulu une première partie sous forme de récit. Donc vous avez 25 chapitres récits. Et j'ai demandé à mon collègue de la Sorbonne, Bruno Dumizil, qui est une sommité sur l'histoire des Francs, de démarrer par les Francs. Mais nous n'évacuons pas pour autant le mythe gaulois. Et c'est Dominique Garcia, hein, le directeur de l'Institut National de l'Archéologie Préventive, qui nous a donné ce chapitre où nous évoquons justement les Gaulois. Alors, c'est pareil, là je vous fais un très très long passage, si vous voulez, sur le mythe gaulois. Et je renvoie à ce chapitre, hein, qui fait une quinzaine de pages et où nos lecteurs auront tous les éléments.
Voilà, parce que Dominique Garcia, avec l'INRAP, permet de mettre l'archéologie et cette réflexion historique dans un temps très long. Ça nous conduit jusqu'aux Gaulois et ça permet de réfléchir d'ailleurs à ce mythe de nos ancêtres les Gaulois. Jacqueline Lalouette.
Mais précisément, tu n'as pas mis les Gaulois dans la même partie que les Francs.
Non.
Les Francs est dans la partie violence et régime.
Exactement.
Alors que Gaulois est placé dans...
Identité et patrimoine.
Voilà, c'est
identité. C'était justement
pour... Donc en fait, alors que par exemple, dans les lieux de mémoire... Ouais. Francs et Gaulois ont été traités ensemble par Christophe Pomian. Toi, tu les as dissociés dans la nouvelle histoire de la France.
Les lieux de mémoire de Pierre Nora, c'est ça?
Oui.
D'ailleurs, les lieux de mémoire de Pierre Nora, dans la construction de cet ouvrage qui demeure une référence, hein, le lieu de mémoire, c'est la fin des années 1980, le début des années 1990. Ça a marqué réellement la manière de lire notre histoire. Éric Anceau, Vous vous inscrivez comment par rapport à ces lieux de mémoire de Pierre Nora?
C'est intéressant. Alors, j'ai eu de très longs échanges avec Pierre Nora durant les 2 années et demie d'élaboration du livre. Au départ, je voulais lui donner le chapitre commémoration. Et il m'a dit, Eric Anceau, je ne ferai pas commémoration parce que voilà, je crois avoir tout dit. Et ça nous a entraîné dans un certain nombre de polémiques. Et c'est là où nous avons enchaîné, puisque vous faites une émission d'historiographie, je crois que c'est intéressant de le rappeler, sur le fait que Pierre Nora m'a dit, voilà, j'appartiens à un deuxième âge historiographique après le roman national, qui est la période d'une forme de déconstruction. Et nous avons voulu proposer un moule de résistance en abordant cette question des lieux de mémoire. Mais il appartient à vous-même, et pas seulement à vous-même d'ailleurs, à toute une nouvelle génération d'historiens, de dépasser cet affrontement entre roman national et déconstruction avec votre livre. Donc vous avez toute ma bienveillance sur ce projet, mais je n'y donnerai pas de texte. Je le rappelle un petit peu dans l'introduction.
Voilà, et Pierre Nora, donc, qui avait ce regard lui aussi sur la manière d'écrire notre histoire, mais alors sur un temps long, parce qu'il a assisté au bouleversement historiographique, Jacqueline Lallouette.
Oui, donc du coup, c'est Rémy d'Alisson qui a fait commémoration. Et alors, si on compare de nouveau la nouvelle histoire de France et les lieux de mémoire, on note qu'il y a quand même des thématiques qui se recoupent.
Et 6 auteurs communs, si je puis me permettre, Jacqueline, de t'interrompre. D'accord. Avant que tu évoques les thématiques, on a par exemple Jean-François Cyrinali, on a Yves-Marie Berset, on a Jean-Clément Martin et Marcel Gaucher, et j'en oublie 2, oh, honte à moi, ils vont pas être contents, qui ont participé aux 2 entreprises. Et moi, je conçois l'histoire comme un passage de témoin. Et c'est très beau, je trouve, que ces historiens très prestigieux aient accepté de donner un texte dans Nouvelle Histoire de France.
Donc j'ai essayé de repérer j'ai repéré quelques thématiques communes, sans doute pas toutes. Donc si on se reporte à une histoire vue sous l'angle chronologique, on va retrouver les Gaulois et les Francs dont on a déjà parlé. Si on se reporte vers des monuments, on va trouver les châteaux de la Loire, Versailles, le Panthéon. Vers les symboles, on va trouver le drapeau, la devise, la Marseillaise, espace et territoire, la mer et la forêt, etc. etc. Mais comme les livres sont conçus différemment, souvent l'approche n'est pas la même. Si je prends par exemple le cas de Jeanne d'Arc, dans les lieux de mémoire, Jeanne d'Arc est traitée dans la guerre de 100 ans, donc sous un angle chronologique, si on peut dire les choses rapidement, alors que, non pardon, c'est dans la nouvelle histoire de la France, c'est sous une approche chronologique, alors que dans les lieux de mémoire, où Jeanne d'Arc est traitée par Michel Vinocq, c'est sous l'angle de la mémoire de Jeanne d'Arc à partir du 19e siècle. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont construites. Le thème est le même, mais l'angle de vision est différent.
On comprend pourquoi il y a nouvelle dans Nouvelle Histoire de France.
Oui, et là c'est Xavier Larry qui nous donne le chapitre sur la guerre de 100 ans, qui est chronologiquement l'un des premiers, et qui nous donne aussi un Jeanne d'Arc à jour des renouvellements historiographiques les plus récents.
Oui, parce que c'est ça aussi l'ambition d'une telle entreprise, c'est de mettre à jour tout simplement ce que nous savons de l'histoire de France à l'aune des avancées de la recherche. Et quelles sont nombreuses ces avancées de la recherche? Pierre Nora nous a quittés en juin 2025. C'est vrai que la disparition de Pierre Nora, c'est la disparition d'une figure, reste son œuvre. Et puis reste aussi son témoignage au moment de construire les lieux de mémoire. Comment ça se passait en coulisses?
Inutile de vous dire que tous les cas de figure se sont posés, des auteurs qui ont canné, des auteurs qui n'ont pas fait ce qu'on leur demandait, des jeux de taquet permanents entre tel sujet et tel virage d'auteur, un travail de mosaïque en quelque sorte, absolument, ou de puzzle à ajuster, tout à fait permanent, et tout le monde se moquait en permanence de moi, parce que je me promenais, mes familiers pourront vous le dire, avec des paperolles dans les poches et des plans qui changeait tous les 8 jours, en me précipitant à 11h du soir au téléphone parce qu'une idée me venait, et que je harcelais un auteur jusqu'à ce qu'il me dise oui, parce qu'il fallait trouver le bon auteur pour le bon sujet. Bref, ça a été une aventure très personnelle, très individuelle, un calvaire dont je garde le meilleur souvenir.
Pierre Nora, en 1997 sur France Culture, Eric Anceau, j'ai l'impression qu'il décrit un peu ce que vous avez vécu.
Alors oui et non, parce que figurez-vous que je vais rendre hommage à mes auteurs, j'en ai une devant moi, deux, et bien à côté, deux chapitres. Non, les auteurs ont été absolument formidables. Je dois dire que quand je demandais quelque chose, j'avais les réponses, on va dire, dans la semaine. Ce qui est un véritable exploit pour des universitaires
très
chargés.
Internet n'avait pas le poids dans les années 90 que maintenant, toi, tu as envoyé des mails. Comment ils faisaient, Pierre Nora?
Oui, tu as entièrement raison.
C'était plutôt par téléphone ou par courrier, je pense.
Non, mais on est tout à fait d'accord. Ouais. Alors, par contre, ce que j'ai connu, il évoquait le terme canet. Bon, moi, heureusement, je n'ai pas eu de mort, on va croiser les doigts, parmi mes 100 auteurs, mais j'ai eu une ou deux défections, ce qui est inévitable. Donc, on a dû remanier en dernière ligne droite le plan. Je dois dire que les mois de juin, juillet et août de cette année, je ne me souhaite pas de revivre.
Alors, des défections, bon, on peut comprendre, pour des emplois du temps chargés, des gens qui ne peuvent plus écrire. Des déceptions aussi, quand vous recevez les textes. Alors, je dis pas déception en disant le texte est mauvais, vous avez appelé les meilleurs spécialistes. Mais plutôt de dire, ce texte-là ne convient pas à l'ensemble et il faut recadrer un peu le texte pour qu'il soit à l'égalité de la tenue des autres textes.
Ah ben, revenons à l'historiographie, mais vous avez parfaitement raison, Xavier. Je vais vous raconter une anecdote. En plus, c'est un très bon ami, donc il ne m'en voudra pas de la raconter. C'est Charles-François Matisse, qui est professeur à Panthéon-Sorbonne. Charles-François Matisse a renouvelé l'histoire de l'environnement et de l'écologie, dont on peut considérer aujourd'hui qu'il est le maître en France. Et Charles-François n'avait pas, c'est de ma faute, je ne lui avais pas suffisamment expliqué, il n'avait pas compris le projet. Et il m'a livré un article d'historiographie pure. Et je lui ai dit, non, Charles-François, ça n'est pas possible. On se met à la portée du grand public. Tu es un très grand savant, tu vas savoir le faire. Tu réécris ton texte, pas plus de 6 ou 7 références dans ton chapitre. Et Charles-François, qui est un historien absolument remarquable et qui travaille, je ne sais pas comment il fait, je vous promets que c'est vrai, en une semaine, il a réécrit entièrement son texte. Et je laisserai le lecteur le découvrir, il est parfait.
Ah oui, avec ici beaucoup d'ambition. Hein, et il faut de l'ambition pour se lancer dans un tel projet. Ambition éditoriale, c'est publié chez Passé Composé, parce que c'est un volume imposant. Et puis ambition éditoriale, parce que qu'est-ce que l'on veut dire? Le rédactionnel, c'est important ici, avec tous les pièges que nous connaissons si bien au moment de raconter l'histoire de France. Et un piège fait brandir tout de suite une expression qu'il vaut mieux utiliser avec des guillemets, roman national. Le danger du roman national, Jacqueline Lallouette. D'ailleurs, l'idée même de roman national a une histoire.
Alors, je vais d'abord laisser la parole à Eric qui va parler des romans nationaux au XIXe siècle. Et puis ensuite, je reprendrai cette affaire de l'expression roman national.
Oui, un petit mot, parce qu'aujourd'hui, le terme est extrêmement piégeux. Et Jacqueline, je pense, nous parlera remarquablement bien de l'historiographie de ce roman national. Mais on utilise déjà au XIXe siècle le terme roman national. Mais ça n'a pas du tout le même sens. Ce sont de vrais romans. Mmh. Et je citerai Ekman Chatrian, qui sont deux auteurs alsaciens et lorrains, et qui, pour mettre en avant la patrie, dans un contexte de très forte tension avec l'Allemagne, ont écrit un certain nombre de romans. Alors, on citera leur roman du Second Empire, L'Ami Fritz, par exemple, ou bien encore Le Conscrit de 1813.
Et Madame Thérèse.
Et Madame Thérèse, tu y tiens. Oui. Et on utilise pour ces termes le terme de roman national. Eux-mêmes l'utilisent, c'est ce que rappelle en fait Charles Grandhomme, qui a consacré une thèse aux deux romanciers. C'est qu'ils sont tellement imbriqués dans leur rédaction qu'on ne retient qu'un nom, mais ils sont deux en fait, pour qualifier ces livres. Mais alors, roman national aujourd'hui, Jacqueline, ça n'est plus ça du tout.
Alors, il faut aussi préciser que sur les éditions Hetzel, au-dessus des titres, on voit en gros romans nationaux, puisque c'est un ensemble de romans nationaux. Alors, l'expression roman national a pris au XXe siècle un sens totalement différent, qui désigne le récit national sous son jour le plus chauvin et le plus déplaisant. Ça, c'est le sens que ça a actuellement. Mais, d'où vient l'expression elle-même? Alors, Pierre Nora dit dans un numéro de novembre 2017 de la Revue des Deux Mondes qui est intitulé « Faut-il supprimer le roman national ?» Il dit qu'on lui a attribué la paternité de l'expression un peu rapidement parce qu'il l'a utilisée à propos de la vis, de ses manuels scolaires et de sa grande histoire de France. J'ai regardé l'article Ernest Lavis, instituteur national, dans le premier tome des Lieux de mémoire. J'ai pas repéré, mais j'ai regardé un peu en diagonale, j'ai pas repéré l'expression roman national dans ce texte-là, mais il l'utilise en revanche dans la conclusion générale des lieux de mémoire où il parle de la poussée des droits de l'homisme récente qui a fait en sorte que le roman national Rose est devenu un roman national noir à cause de toutes les accusations portées contre la France colonialiste, etc., etc. Mais il dit, mais l'expression, enfin Pierre Nora, je veux dire, dit l'expression a été véritablement lancée par Paul Lyonnais. Donc Paul Lyonnais, sociologue, mort en 2011, qui en 1993 publie le livre suivant, Voyage au centre du malaise français, l'antiracisme et le roman national chez Gallimard. Et ce livre est un tir à boulet rouge contre SOS Racisme et d'autres associations qui ont détruit tout ce que la France avait d'image positive d'elle-même pour la culpabiliser et lui donner une image totalement noire. Et il écrit à ce sujet « La destruction du roman national est l'événement majeur qui métamorphose la sphère des représentations des années 1970. La destruction du roman national épique est profonde, irrémédiable. Elle a rompu la cohérence et l'intelligibilité du monde où croyaient vivre les Français. » Donc, chez Paul Lyonnais, roman national était positif. Et ensuite, ça a été repris sous un angle totalement négatif. Alors, Suzanne Citron en parle dans son deuxième livre consacré au mythe national. Le premier, c'est 1987, l'hymne national, l'histoire de France en question. Et le deuxième, 2008, le mythe national, l'histoire de France revisité. Et là, elle dit que depuis les années 1990, l'expression roman national s'est banalisée, popularisée. Elle renvoie à un dossier coordonné par François Dos de 1999. Elle-même est très hostile à Ernest Lavis, mais elle parle plutôt de la légende nationale, du mythe national, de la mythologie nationale. Et plus tard, Laurence de Kock, en parlant de Suzanne Citron, dit que Suzanne Citron a contribué à détruire le roman national. Mais je n'ai pas trouvé roman national chez Suzanne Citron, à part le passage que je viens de citer. Alors il faut que je cite une autre personne, c'est David Gossen, qui a écrit en 2020 un livre intitulé « Qui a écrit le roman national ?» donc point d'interrogation, et il refait une grande partie de l'histoire de l'expression. Donc c'est à travers lui que j'ai...
Et d'ailleurs dans cet ouvrage, il montre combien cette expression a été utilisée de manière politique, parce que dans un contexte, on se souvient de la réflexion sur l'identité nationale, on a brandi le roman national. Éric Anceau, j'évoquais un défi autour de cette question de roman national, parce qu'écrire une histoire de France pourrait laisser penser qu'il y a une volonté derrière de raconter une histoire de France particulière pour aboutir à un objectif particulier. Mais historien que vous y êtes, c'est pas la démarche. Votre démarche, vous, c'est d'appeler les spécialistes. Et si on parle de couleurs, en librairie, votre livre se repère très vite parce qu'il est gros et puis il est rouge de couverture. Et puis il y a écrit Nouvelle Histoire de France dessus, donc on repère vite.
En blanc et en bleu.
Et en blanc et en bleu.
Il a déjà un surnom, on le surnomme le Grand Livre Rouge.
Le Grand Livre
assez
Rouge.
C'est rigolo, ça m'a amusé.
C'est votre Grand Livre Rouge, Éric Anceau. Non, dans le choix des histoires. Oui. Des historiens. Et dans cette réflexion sur ce que l'on peut faire de l'histoire, il y a toujours, au moment de diriger un livre, beaucoup d'attention.
Alors, on marche sur des œufs. Avant, je voudrais rendre hommage à Jacqueline qui a fait un travail mais extraordinaire pour l'exégèse de l'expression roman national.
Parce mais enfin, que j'ai suivi David Gossen. Comme...
Bon, mais bien sûr,
j'ai repris Paul Lyonnais.
Tu as travaillé à la BNF. Tu as... Enfin bon, c'est
oui,
fantastique.
Non, mais arrêtons là.
Non, mais je rends hommage. Et donc, effectivement, vous avez entièrement raison, Xavier. On marche sur des œufs, hein, pour parler très clair. On est sur une ligne de crête. Alors, peut-être parlera-t-on du postmodernisme et de la déconstruction, hein, et on vient de parler du roman national. Et nous, on ne s'inscrit pas du tout dans cette lignée. On veut proposer avec nos historiens, nos universitaires, mais il n'y a pas que des universitaires, un travail extrêmement sérieux qui serve de repère, en fait, aux Français. Petite anecdote, décidément, on en donne beaucoup ce matin. Il y a, et c'est très peu, hein, ça m'est arrivé 4-5 fois en tant que directeur, que je doive rectifier ce que disait un auteur. Voilà, un auteur avait une expression un petit peu malheureuse, un auteur qui aime beaucoup un ministre de l'économie et des finances des années 90 trouvait le moyen de le citer 8 fois dans 10 pages. Et je lui dis non, c'est pas possible. Donc j'ai rectifié un tout petit peu le tir, mais c'est à la marge. Tout le monde a joué le jeu.
Un ministre avec une très belle mèche.
Vous avez raison, qui est encore actif, qu'on voit parfois.
Sans doute Alain Madelin.
Exactement.
Non mais voilà, c'est ça. C'est de dire que faire de l'histoire, c'est aussi faire de la politique, parce que historien, historienne, on est dans le monde, mais la démarche scientifique permet d'avoir cette distance. Donc historien de gauche et de droite, c'est vrai, en tant qu'individu, on peut être de gauche et de droite, n'a pas d'incidence sur le texte.
Deux choses, si je puis me permettre, deux choses. Alors d'abord, je n'ai pas du tout regardé qui je mettais dans le livre. Ça vaut pour les hommes, les femmes, ça vaut pour les collègues de gauche, de droite, plein d'apolitiques. En fait, j'ai voulu les meilleurs. D'où qu'ils viennent, ça c'est le premier élément. Et puis permettez-moi de citer quand même Marc Bloch, hein, qui est quand même une référence. Tout le monde connaît l'historien immense qu'il a été. Et Marc Bloch disait que dans les périodes de crise, il fallait que les historiens investissent l'agora pour éviter peut-être à d'autres de dire tout et n'importe quoi. Et ben, c'est un petit peu ce qu'on a voulu faire, mais en restant dans notre domaine historique, dans notre domaine de compétences.
Dans cet équilibre, vous l'avez évoqué, Eric Anceau, homme, femme. Alors, sur une lecture du sommaire, mais sans regarder dans le détail, des noms d'hommes, bien sûr. On en est où? Parce que vous dites qu'il n'y a pas eu de réflexion homme-femme.
Oui, mais est-ce que vous voulez des chiffres, Xavier?
Oh, bah, donnez, allez-y.
Ah, bah, je les ai. C'est facile à compter parce qu'on a 100 auteurs. Donc, on a 20 collègues femmes et 80 hommes. Alors, je conçois que c'est déséquilibré. Comparons avec les histoires précédentes. On a cité les lieux de mémoire. Il y a d'autres ouvrages antérieurs. On n'était pas sur un pourcentage aussi élevé de femmes. J'ai une petite controverse avec une collègue que, par ailleurs, je respecte et j'aime beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle a compté le nombre de pages. Moi, je dis, c'est pas comme ça qu'il faut compter. Il faut voir que dans cette histoire, on n'a jamais autant parlé de l'histoire des femmes dans l'histoire de France. Je vous promets que c'est vrai, on pourra vérifier. Par exemple, Jean-Marc Morisseau, qui nous donne Paysans et Campagne, eh bien, consacre une partie entière aux paysannes. Et aux enfants, incidemment. Les ouvriers, c'est pareil. Il y a les ouvrières qui sont présentes. Il y a les bourgeoises. On a 23 portraits de femmes importantes. Donc, certaines sont très connues. Je citerai Simone Veil, puisqu'on parle de Panthéon. Mais d'autres le sont beaucoup moins et nous les faisons découvrir à l'occasion de ce livre.
Avec, dans ce livre, cette volonté qui est ambitieuse, mais comme à chaque fois, d'écrire une histoire de France, bien sûr. Mais enfin, là, elle est conséquente. C'est de vouloir dire quelque chose. Les couleurs de la couverture de l'ouvrage, nous l'évoquions, c'est quand même bleu, blanc, rouge. On retrouve ces couleurs-là, mais pas seulement. C'est un hasard éditorial. Non, mais parce que c'est aussi savoir comment on en est arrivé là, pourquoi la France est ainsi aujourd'hui et comment elle était par le passé.
Oui, bien évidemment. C'est un choix de mon éditeur, de notre éditeur, puisque nous avons le même avec Jacqueline pour ces trois fleurs de la France. Et donc,
de la nation.
Et puis, je dirais qu'avant, mon histoire de la nation, c'était blanc, rouge, bleu. Donc, c'est un peu un incontournable quand on aborde la France aujourd'hui.
Jacqueline Lalouette, ben on retrouve d'ailleurs ces couleurs sur la couverture de votre ouvrage, vu qu'il y a ce drapeau bleu, blanc, rouge,
trois fleurs. Marthe Chenal, qui est enveloppée dans le drapeau rouge pour chanter la Marseillaise en 1918.
La Marseillaise, ah ben justement.
Citoyens, si vous m'enlevez le drapeau tricolore, sachez-le bien, vous m'enlevez la moitié de la force extérieure de la France. Car l'Europe ne connaît que le drapeau de cette défaite et de nos victoires. C'est le drapeau de la République et de l'Empire. En voyant le drapeau rouge, elle ne croira voir que le drapeau d'un parti. C'est le drapeau de la France. C'est le drapeau de nos armées victorieuses. C'est le drapeau de nos triomphes qu'il faut relever devant l'Europe. La France et le drapeau tricolore, c'est une même pensée, un même prestige une même terreur au besoin pour nos ennemis.
Nous étions en 1848 ici, oui. À propos du drapeau bleu, blanc, rouge. C'est une chose, mais ici l'évocation c'est par Lamartine, le poète, en 1848 du drapeau rouge.
Alors, ça renvoie à un récit de Lamartine qui raconte lui-même comment, en février 1848, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, il s'est opposé au drapeau rouge. On pensera ici au grand tableau de Philippe Otto, où l'on voit effectivement des drapeaux rouges, aussi des drapeaux tricolores, et Lamartine, le bras levé, en orateur, etc. Cela dit, Louis Blanc, dans son histoire de 1848, dit que cette scène n'a jamais existé et qu'il faut accorder autant de crédit au récit de Lamartine qu'à ceux d'un mangeur de haschich. Et si on lit le Moniteur universel, effectivement, on ne voit pas trace de cette anecdote de Lamartine, enfin de cette prise de parole de Lamartine sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Donc c'est quelque chose qu'il a reconstitué après. Et par ailleurs, c'est dans ce discours qu'il y a une autre phrase très célèbre contre le drapeau rouge qui a été traîné dans le sang du peuple sur le Champ de Mars. C'est une grossière erreur historique, ce drapeau rouge très... Bon, mais j'ai pas le temps de décrire ça ici.
Bon, non, mais il y a votre livre, de toute façon, Trois fleurs de la nation.
Eric, oui, on a choisi le tableau de Philippe Otto en couverture du dictionnaire des dirigeants de 48, auquel tu as aussi participé, Jacqueline, il y a quelques années. Alors, il y a un fond de vérité, hein, quand même, malgré tout, je l'ajoute. Mais, bien évidemment, Lamartine, on le sait, était affabulateur et il s'est donné le beau rôle quand il a rédigé par la suite son histoire de 1848.
Alors, il y avait effectivement vraiment des drapeaux rouges qui flottaient.
Exactement. Et il a été à la rencontre de la foule sur le parvis de l'Hôtel de Ville.
Absolument. Ça, mais tout le discours qu'il a bâti après est une pure invention.
Voilà, parce qu'il y a l'histoire au sens du travail de l'historienne, de l'historien, et puis il y a l'histoire au sens les choses du passé, et elles sont parfois récupérées, utilisées, instrumentalisées. Éric Anson, on le constate sans cesse aujourd'hui. Appétence gigantesque pour l'histoire dans la société française, mais des propositions d'histoire, par le spectacle par exemple, qui ne sont pas de l'histoire comme le résultat du travail des historiens et des historiennes. Mais l'ensemble fait notre histoire. C'est pourquoi on évoque ici 1848 et une histoire très contemporaine, mais il faut tirer le fil très loin, en fait, pour comprendre 1848. Cette nouvelle histoire de France, c'est ce plaisir de l'histoire de France en général. C'est aller loin pour essayer de comprendre le présent.
Exactement. Donc nous, ce qu'on veut, ce qu'on ambitionne de faire, c'est de donner des clés aux Français pour comprendre leur histoire en connaissance de cause. Mais on n'exclut personne, on n'efface personne. J'ai eu un débat l'autre jour avec Patrick Boucheron qui disait que j'avais voulu l'effacer de la nouvelle histoire de France parce qu'il a regardé l'index et son nom ne figure pas. J'ai laissé entière liberté aux auteurs. Alors il se trouve que le Puy du Fou est cité, c'est le spectacle qui est couronné à travers le monde comme un très grand spectacle, mais c'est une histoire de légende, une histoire recomposée.
Le Puy du Faux, on dit le Puy du Faux.
Certains disent le Puy du Faux. Mais on ne peut pas faire l'économie dans un livre comme ça de citer quelque chose qui a un rayonnement mondial, on va dire, et qui draine des centaines de milliers de spectateurs chaque année. Ça n'est pas possible.
C'est pas possible. Et le Puy du Faux, c'est le titre d'un livre avec Florian Besson, entre autres, autour de ce grand spectacle populaire, il faut le dire, et spectacle très impressionnant. Et dans cette histoire-là que nous évoquons, il y a la volonté sans doute, mais vous faites ça, Jacqueline Lalouette et Éric Anson, de simplement donner des armes intellectuelles pour décrypter. Ben, par exemple, face à un spectacle historique, à quoi nous assistons? Est-ce que nous assistons à la volonté d'orienter notre réflexion ou simplement un spectacle historique? Ces trois fleurs de la nation, Jacqueline Lalouette, c'est constitutif de ce que nous sommes, vous l'avez dit. Elles sont dans la Constitution. Donc c'est simplement important de savoir leur histoire.
Elles sont dans la Constitution, elles sont très souvent dans les manifestations pour le drapeau et la Marseillaise. Elles sont quotidiennement présentes par les inscriptions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je pense qu'elles sont aussi présentes plus intimement dans l'esprit de tous les citoyens, du moins pour la devise, enfin la devise liberté, égalité et fraternité, les Français y tiennent essentiellement. Alors, en fonction des orientations politiques des uns et des autres, on attachera plus ou moins d'importance au drapeau et à la Marseillaise. Mais il ne faudrait pas penser que le drapeau et la Marseillaise renvoient forcément à la droite et l'extrême droite et sont ignorés de la gauche et de l'extrême gauche. Il n'y a pas si longtemps que ça que Jean-Luc Mélenchon se promenait avec une énorme cocarde tricolore accrochée à sa veste de cuir. Et en 2015, on l'a entendu rappeler l'importance des symboles révolutionnaires. Et dans le début de l'introduction de mon livre, je cite François Ruffin, c'est assez récent, à qui une auditrice demandait pourquoi il terminait ses meetings par la Marseillaise et non pas par Bella Ciao. Et il répond, mais parce que la Marseillaise est notre symbole républicain et révolutionnaire. Donc...
J'ajoute, pour compléter ce que tu dis, que dans ton chapitre « Liberté, égalité, fraternité », tu rappelles que cette devise, bien loin de dater seulement de la Révolution ou de 1848, a un très fort ancrage chrétien. Ça nous renvoie à des valeurs chrétiennes.
Alors, il y a tout un ensemble de discussions autour des composantes de cette devise. En 1848, les catholiques ont rappelé très fortement que l'égalité, la fraternité sont des valeurs évangéliques, et on a souvent, en 1848, dit que le premier arbre de la liberté, que les curés ont béni en 1848, faut pas oublier que le premier arbre de la liberté avait été la croix plantée sur le Golgotha. Mais ensuite, les Lumières ont aussi utilisé ces notions d'égalité, de fraternité, de liberté. Et donc, on pourrait dire qu'en fait, il n'y a pas de raison d'évacuer la dimension religieuse. On ne peut bien sûr pas évacuer la dimension des Lumières reprise par la franc-maçonnerie. Donc, il y a une profondeur idéologique très grande dans cette devise qui pose aussi un autre problème de ces trois termes. Quel est le plus important ? Est-ce que c'est le premier ? Est-ce que c'est celui du milieu, égalité, qui fait le pivot entre le premier et le troisième ? Et au XIXe siècle, on trouve la devise sur, par exemple, sous le titre d'un journal, mais on la trouve rédigée différemment. Les uns vont dire fraternité, égalité, liberté, d'autres égalité, fraternité, liberté. Donc, il y a vraiment une très grande profondeur idéologique dans cette devise, ce qui fait que finalement, elle est peut-être plus contestée d'une certaine manière que le drapeau et la Marseillaise, qu'il est beaucoup à cause de la teneur de ses paroles. Mais, par exemple, quand, il y a quelques années, une militante du mouvement qui s'appelait encore Front National, je crois, c'était avant le Rassemblement National, dit que la fraternité concerne les Français, mais que les étrangers n'y ont pas droit, ben ça nous renvoie quand même à quelque chose de très profond sur le vrai sens de la fraternité. D'où d'ailleurs la position du Conseil constitutionnel autour de l'affaire de Cédric Héroux, qui était venu en aide à des immigrés, et le Conseil constitutionnel a reconstitutionnalisé, si on peut dire, le principe de fraternité.
Sans compter que le terme fraternité aujourd'hui est contesté parce qu'il renvoie aux hommes, donc sororité, adelphité. Et j'en profite pour glisser que Yannick Ripa nous donne un très beau chapitre sur l'histoire du genre et des femmes et un autre sur l'histoire du féminisme.
Oui, et donc tu viens de citer adelphité, c'est quand même quelque chose. Bon, quand je parle d'adelphité autour de moi, tout le monde dresse la tête et me demande de quoi il s'agit. Donc effectivement, il y a des féministes qui proposent de remplacer fraternité par sororité, mais sororité n'est pas plus inclusif que fraternité, bien évidemment. Et d'autres proposent de remplacer fraternité par adelphité, qui serait un terme plus neutre. Adelphos, adelphé, c'est le frère, c'est la sœur. Mais en même temps, on peut dire que adelph, ça désigne la matrice. Donc le frère et la sœur sortent de la même matrice. Donc là, derrière adelphité, on aurait en sous-sol une dimension biologique que je trouve encore plus ennuyeuse que la question du genre.
Et Adèle Fité, c'est membre de la même famille. Et c'est vrai que d'un seul coup, il y a du sang là-dedans. Et c'est pas du tout la conception que nous pouvons avoir de la nation, avec une place importante accordée aux femmes, bien sûr. Éric Anceau, vous l'avez dit à travers les différents chapitres, à travers le texte de l'historienne Yannick Ripa sur le féminisme, c'est sensationnel. Et puis vous, Jacqueline Lallouette, simplement par ces figures. Alors, il y a Marianne, bien sûr, et il y a la Marseillaise. Bah oui, on dit pas le Marseillais. La Marseillaise.
Allô ? Allô ? Allô aux enfants de la patrie ? Bonjour ! Ici Pierre Desproges, à l'heure où je vous parle, le jour de gloire est arrivé, et l'étendard sanglant de la tyrannie est... Ah, je pense que nous ne sommes pas en mesure de vous montrer l'étendard sanglant de la tyrannie. Ah, voici, il est levé contre nous. Ah, je pense que vous entendez, comme moi, dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats. Monsieur, vous êtes petit exploitant agricole et apparemment vous êtes mécontent.
C'est-à-dire que, voyez-vous, ils viennent jusque dans nos bras, n'est-ce pas?
Ah oui, et qu'est-ce que... C'est France Inter, et qu'est-ce qu'ils font jusque dans vos bras?
Eh bien, comme vous voyez, ils égorgent nos filles et nos compagnes.
Ah oui?
Et le gouvernement ne fait rien.
Et que préconiseriez-vous, monsieur?
Écoutez, je pense que ce serait une bonne chose de former le bataillon.
Oui.
Et de faire couler un sang impur.
Un quoi?
Un sang impur.
Mais dites-moi, c'est bien joli, mais faire couler un sang impur, ça ne présente pas un danger de pollution?
Pensez-vous, c'est très bon hein, pour abreuver nos sillons.
C'est bon pour ces sillons.
C'est évidemment Pierre Desproges avec Louis Régaud dans le tribunal des flagrants délires sur France Inter. Nous étions en 1982 ici. Éric Anceau, beaucoup de sourires dans cette histoire, mais le fait que la Marseillaise se transforme en sketch montre combien elle est complètement intégrée à nos existences, à notre vécu, à notre lecture du monde dans votre nouvelle histoire de France. L'ambition, et on l'entend bien, vous nous l'avez expliqué, mais c'est indiqué même sur la couverture, c'est raconter la France. C'est raconter la France. Mais par autant de parcours individuels, de cheminements intellectuels, vu qu'il y a 100 historiens et historiennes qui s'emparent de la question. Ce sont autant de Frances différentes qui, mises bout à bout, nous donnent la France.
Mais oui, la France, elle est une, mais elle est surtout multiple. Et c'est ce qui fait bien évidemment notre richesse, c'est ce qu'on a voulu montrer. Donc après la partie récit, on a trois grandes parties. Une sur les spiritualités et les politiques, une sur les espaces et les sociétés. Pluriel à chaque fois, notez-le, et une sur les identités, mais identités que nous plaçons au pluriel, et les patrimoines également au pluriel, où tous les arts libéraux sont décrits, et également les formes d'identité. Nous n'évacuons pas la question du nationalisme que j'ai voulu placer ici. C'est Bertrand Joly, grand spécialiste du boulangisme et du nationalisme, qui nous donne le chapitre. Et je crois que cette France plurielle, on essaie, les deux index, l'index des noms-lieux et l'index des noms de personnes, sont là pour le prouver, d'essayer... d'embrasser tout le monde. Alors, c'est assez rigolo, permettez-moi une nouvelle anecdote, parce que depuis le jeu, ce livre fait un petit peu de bruit, on va pas se le cacher, et maintenant les gens sur les réseaux sociaux, leur grand jeu, c'est d'essayer de trouver ce qui manque. Donc, il y a quelqu'un qui me dit, il n'y a pas Georges Brassens. Eh ben si, manque de chance. C'est pas dans le chapitre chansons populaires, c'est dans le chapitre musique classique. Je vous laisse découvrir pourquoi Brassens est dans ce chapitre-là. J'ai repéré moi-même une absence, mais voilà, je laisse à vos auditeurs le soin de la découvrir. Et moi, je ne vais pas donner des bâtons pour me faire battre.
Ah, ça, Eric, c'est dommage. J'en ai repéré une que je te signerai aussi.
Alors laquelle?
Oh,
ouais, vas-y. Bah,
tu le sais bien, je t'ai envoyé un mail.
Je sais bien, vas-y, dis-le.
Libre pensée.
Ah.
Libre pensée. Je bats ma coulpe. Il faudra que dans une réédition, nous publions un éclairage sur Libre pensée.
Avec ici, nous avons entendu par Pierre Desproges et Louis Régaud, la Marseillaise, Jacqueline Lallouette, une autre fleur de la nation, cet hymne. Mais cet hymne, c'est bien d'en raconter l'histoire, parce que aujourd'hui, et comme vous nous l'avez dit avec beaucoup de justesse, l'associer à un courant politique plutôt à droite ou à l'extrême droite est une erreur fondamentale. C'est oui. Aussi participer simplement à la réappropriation de notre histoire, mais par l'ensemble des gens.
Et puis, il ne faut pas oublier... C'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup, qu'au XIXe siècle, les républicains prisonniers à Doullens, au Mont-Saint-Michel, à Sainte-Pélagie, etc., chantaient la Marseillaise, qu'ils considéraient comme leur prière du soir. Il faut penser aux résistants qui chantaient la Marseillaise. Il faut penser aux résistants qui... sont partis au poteau d'exécution en chantant la Marseillaise. Il y a des femmes qui sont rentrées, le fameux convoi des mille, qui sont rentrées à Auschwitz, je crois, en chantant la Marseillaise. Il y a une femme, dont le nom m'échappe, Eugénie, c'était une niçoise, qui est partie à la chambre à gaz en chantant la Marseillaise. Tout ça est extrêmement émouvant. Et quand j'entends, j'ai réussi, j'étais très contente il y a un mois ou deux, parce que mon coiffeur, vous savez qu'on parle toujours de choses importantes chez le coiffeur, mon coiffeur me disait à quel point il détestait la Marseillaise à cause de ses paroles, l'étendard sanglant, etc., etc. Et je lui ai parlé des gens pour qui la Marseillaise était une prière dans les prisons, des gens qui allaient au poteau en chantant la Marseillaise. Et il m'a dit, vous m'avez convaincu. Alors, j'étais très fière de moi.
Je vais imaginer être coiffeur de Jacqueline Lalouette et se dire, bah tiens, je vais parler de la Marseillaise. On va voir ce que ça va donner. C'est pas la même séance.
Mais la Marseillaise est outragée, parodiée. Il y a toutes sortes. Et là, vous avez cité le tribunal des flagrants délires. Il y a quelque chose de bien pire, si je puis dire, dans la chronique des haines ordinaires. Dernière chronique de Pierre Desproges. Elle est dans mon livre, mais je pense qu'on ne peut pas la passer. Elle est trop licencieuse.
Elle est trop licencieuse, on peut la trouver, et puis surtout on la trouve dans votre livre.
Oui, deux petits mots. Donc Marc Bloch, c'est la deuxième fois qu'on le cite, lui aussi vénérait, il est classé plutôt à gauche, Marc Bloch, il vénérait la Marseillaise, bien évidemment. On rappelle qu'il a été fusillé, alors je ne sais pas s'il a chanté la Marseillaise en étant fusillé par les Allemands, mais il la vénérait. Et on rappellera que cette Marseillaise, effectivement, et c'est très bien, et parodiée, ça l'a fait vivre, et que pour essayer d'atténuer les paroles un petit peu guerrières, martiales, sanglantes, eh bien, on joue aussi sur le rythme. Alors, tout à l'heure, on évoquait la version symphonique et romantique
de Berlioz en 1830.
On rappellera que sous le président Giscard, qui voulait justement pacifier les choses, on en a ralenti le rythme. Tu le racontes très très bien dans ton éclairage.
Et que François Mitterrand a rétabli. Et puis, on a eu en 2024 la version de la Marseillaise par Vincent Lemann pour les Jeux Olympiques, qui est une version très, très, très adoucie. Très adoucie.
Éric Anceau, est-ce que la réception est adoucie de votre ouvrage? Parce que, non mais, bien entendu, au moment de présenter une nouvelle histoire de France, et vous avez beau vous entourer des spécialistes de chaque sujet, c'est impossible de tout couvrir. On le sait bien, par définition, c'est impossible. Et donc, ce que l'on retient, c'est, et vous avez expliqué hein, ce fonctionnement avec les trois parties qui nous portent. Alors, ça nous donne le récit. On apprend l'histoire de France. Et puis après, on a tous ces éléments de réflexion. Mais dans la réception qu'il y a, donc les manquements, ça a été évoqué. C'est la répartition homme-femme, et ça, vous y avez répondu. Et après, c'est surtout, c'est à un moment donné une nouvelle proposition, un peu en écho à ce que vous disiez des lieux de mémoire, ou de ce que vous disait Pierre Nora sur les lieux de mémoire. C'est la mise à jour de l'histoire de France destinée, vu que les générations changent, à une nouvelle génération et puis aux anciennes aussi. Ça fait toujours plaisir.
Exactement. Donc on a la chance d'avoir de très belles recensions depuis que le livre est sorti. Ça fait une semaine et même en amont de sa sortie. Donc ça annonçait les choses. Alors bien évidemment, on égratigne un petit peu, mais globalement, on nous dit c'est le livre qu'il faut voir dans toutes les bibliothèques. Le terme de monument revient, donc je me permets de le citer. On se placera peut-être dans le patrimoine. Là, j'exagère beaucoup en disant ça, dans la partie patrimoine. Donc ça, c'est très positif. Et puis surtout, davantage que les recensions dans la presse. Moi, je suis beaucoup, comme vous, Xavier, hein, on est quand même très ancré dans la réalité de nos compatriotes. Je suis ce qui se dit sur les réseaux sociaux et les retours des gens qui ont lu le livre ou parcouru, parce qu'il faut du temps pour le lire, eh bien, sont très positifs. Et c'est ça qui me fait vraiment très chaud au cœur.
Oui, c'est un ouvrage d'ailleurs que l'on peut lire ou que l'on peut picorer, parce que c'est ce système de chapitre.
Oui, c'est un ouvrage qu'on consulte, qu'on ne lit pas de la première à la dernière page, forcément dans la continuité. On consulte, on va d'abord à la table des matières. Et puis ensuite, on prend effectivement ce dont on a besoin dans l'immédiat.
Jacqueline Lalouette, ouais, j'ai presque envie de dire c'est pareil pour vous. Alors vous, non, il y a la lecture qui peut être en continu, mais on peut quand même aller, est plutôt proche du drapeau de libre ou de la devise, intéressé à aller voir avec ce que vous avez pu travailler comme sujet, ces statuts de la discorde, cette identité républicaine. Et quand vous voyez notre pays qui se déchire sans cesse, mais d'ailleurs, c'est continu, il ne faudrait pas croire qu'aujourd'hui, c'est particulier. Aujourd'hui, c'est intense quand même.
Aujourd'hui,
hein. C'est intense. Hein. Oui. Mais quand on remonte le fil, on voit des divisions très fortes autour de l'identité. Vous vous dites, mais l'histoire peut être là aussi pour pacifier le débat, au sens où ça apporte des arguments scientifiques, de recherche, sur lesquels on peut s'appuyer. La manipulation de l'histoire est insupportable.
Oui, mais elle existe. Et puis, il y a... j'ai failli intervenir tout à l'heure à ce sujet quand il était question des historiens de droite et de gauche. Je crois qu'il y a deux grandes positions possibles. Soit on dit, on en a discuté hier, Eric, et je crois qu'on était sur la même longueur d'onde, on fait une mise à distance entre soi et l'objet sur lequel on travaille. C'est-à-dire, on essaye au maximum de faire abstraction de soi-même, ce qui implique une discipline intellectuelle assez forte. Et par ailleurs, pour être sûr de ne pas succomber à des biais idéologiques, on va voir tout type de sources, y compris les sources les plus opposées et en plus grand nombre possible. Mais il y a une autre manière d'être pour l'historien, qui est revendiquée par certains, qui est de dire... Je suis un historien, mais je suis aussi un homme ou une femme et un citoyen ou une citoyenne. J'ai mes idées, j'ai mes options idéologiques et j'écris. Je ne peux pas écrire l'histoire autrement qu'en fonction de ce que je suis et ce que je pense. Donc, j'assume mes positions idéologiques, mes prises de position politiques, mais pour être honnête, je les fais connaître. J'annonce clairement de là où je me trouve, là où je me trouve pour écrire. Et un autre que moi aurait écrit différemment. Ce sont vraiment deux positions vraiment presque opposées. Qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt vers l'une, plutôt vers l'autre ? Je ne sais pas.
Éric Anceau, c'est vrai, sur ce positionnement qui est très délicat. Hein.
Ah oui, et je rejoins complètement Jacqueline, elle a très bien posé les choses, si ce n'est que moi je pense qu'il y a une troisième voie entre les deux, et c'est un peu ce qu'on a voulu faire. Et c'est ce qui m'est reproché, encore une fois, dans un compte-rendu dithyrambique dans le Monde des Livres la semaine dernière. Moi je pense qu'on peut être un citoyen, faire voir des choses dans lesquels on peut tous se retrouver et en même temps bah, avoir ses idées, mais les mettre de côté, hein, faire un pas de côté,
mais bien sûr,
sachant bien évidemment qui nous sommes. Et il suffit de nous googliser, on verra bien évidemment qui nous sommes. Mais je crois qu'il y a une voie médiane malgré tout entre les deux biais que tu viens d'évoquer.
Donc le récit commun, qui était un petit peu l'ouverture de cette discussion, nous y arrivons.
Alors moi je crois qu'il est possible, mais ne nous leurrons pas, nous sommes français et nous aimons débattre, un peu gaulois dirait un certain président, et c'est très bien comme ça. Ça fait de très belles émissions.
Enfin oui, ça fait de très belles émissions avec vous deux, avec ces deux ouvrages, Jacqueline Alouette, Trois fleurs de la nation, Le drapeau, l'hymne, la devise, c'est publié chez Passé Composé. C'est déclinable en plus, hein. Vous l'avez dit, il y a d'autres symboles de la nation que l'on pourrait prendre.
Oui, oui, mais j'ai expliqué pourquoi
voilà. C'est pour d'autres volumes en fait, c'est pour ça.
Non, c'est ce que je voulais dire, c'est que j'ai tenu à faire à mettre les trois symboles ensemble parce qu'en général, ils sont traités différemment. Il y a des livres sur la Marseillaise, des livres sur la devise, des livres sur le drapeau et j'ai voulu montrer leur coexistence, leur association, leur dissociation, leurs interactions, etc.
Et pour la nouvelle histoire de France, ben, par définition, Éric Anceau, tout est dedans. Dans combien vous avez dit 1100 pages, hein, c'est ça ?
1100 pages. 1100
et combien
pages
de kilos ?
1,640 kg. Ce n'est pas moi qui ai pesé, c'est une journaliste de La Croix.
Bon, bah, très très bel ouvrage évidemment, Éric Anceau. Merci vivement à vous d'être venu présenter cette nouvelle histoire de France. Et merci beaucoup à vous, Jacqueline Lalouette. C'était saisissant de clarté sur notre histoire et puis sur la présentation de vos ouvrages. Merci beaucoup. Prochain épisode
merci,
dans le cours
Xavier
de l'histoire mondiale et populaire avec Patrick Boucheron et Gérard Noiriel. Comment dépasser les frontières de l'histoire de France ?
Nous savons que le peuple français aime bien recevoir ses invités et qu'il est heureux de pouvoir recevoir aujourd'hui en France les hôtes illustres qui sont venus lui faire cette visite. Si cela peut servir le rayonnement de la France, tant mieux. Et nous veillons à tout ce que se passe le mieux possible pour que le rayonnement de la France dans ces lieux très beaux puisse faire que ceux qui nous quitteront puissent dire « cette France d'autrefois et cette France d'aujourd'hui, c'est pas si mal que ça ».
Le président Mitterrand, bien sûr, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau à la technique Mineta Diawara, émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy et Mayou Nguizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.